Bonjour à tous. Je ne sais pas si je dois remercier celui qui apporte une prophétie en disant à propos de la parole qui va suivre et qui sera apportée par un serviteur, que ce sera une parole inspirée. Ça met toujours la pression sur le prédicateur. Nous ne lapiderons pas le prophète, mais j'espère que ce qu'il a dit, si cela n'est pas reçu comme tel, ça ne viendra pas de lui. Cela pourrait venir de moi. D'autant plus que ce matin, quand ma femme s'est levée pour prendre le petit déjeuner, j'étais en train de retravailler ou de travailler ce que j'avais apporté. Je lui disais, je ne suis pas sûr de moi pour la prédication. Vous voyez comme quoi, hein ? Alors, j'ai préparé une parole. Et je vais essayer d'être dans les temps, c'est-à-dire de ne pas non plus être trop long, parce qu'en plus j'ai une partie qui est un peu particulière. Donc j'ai préparé une parole et j'ai mis, comme à toutes mes prédications, un titre. Alors Christophe, tu pourras la noter si tu le veux. Ce titre-là me permet dans mon ordinateur, à partir de la date et du titre, de retrouver ce que j'ai préparé. Alors là, c'est bien parce que ça commence par A, donc il était tout en haut de la liste. Et le titre que j'ai donné, c'est « Apprendre à aimer comme Christ ». Je ne suis pas sûr de moi. Hein. D'abord, je voudrais vous dire, je ne me considère pas comme un spécialiste qui maîtrise toutes les ficelles de l'amour. Je ne voudrais pas me présenter comme quelqu'un qui sait aimer et qui va vous expliquer comment aimer en disant « Fiez-vous à moi, j'ai toutes les recettes. » Si vous pensiez ça, allez voir ma femme. Je voudrais le dire, puisqu'il y a un nouveau couple qui est là devant moi, je pense que ce que je vais apporter peut aider à comprendre ce que c'est que d'aimer. Je pense que si vous êtes engagé, c'est que vous êtes sur ce chemin-là. Mais pour ceux qui ne seraient pas et qui sont déjà arrivés au bout de la compréhension de l'amour, qui savent aimer, qui ont vraiment la maîtrise de ce sujet-là dans leur vie personnelle, à cela, je peux les inviter. Il y a une bibliothèque juste derrière, dans la première partie de l'église, dans laquelle vous pouvez prendre un livre en attendant que la prédication s'écoule. Parce que je ne voudrais pas être redondant, puisque vous pourriez connaître. Donc allez-y maintenant pour ne pas faire trop de mouvements, et puis pour les autres, on va s'arrêter sur cette question d'aimer. Alors pourquoi j'ai été particulièrement ces dernières semaines touché par ce thème ? Parce qu'il y a un jeune couple qui m'a demandé il y a plusieurs mois de les accompagner dans la préparation au mariage. Je le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et ça fait plusieurs fois, enfin un nombre assez certain de fois, où j'ai accompagné des couples dans la préparation au mariage. Et puis, ça me trotte dans la tête en permanence, parce que je me prépare pour les rencontres. Et puis, je travaille sur des textes qui me semblent intéressants, et ça m'habite quelque part pendant plusieurs mois. Et au fil des années, il y a des choses qui me semblaient intéressantes de partager. Et je me dis, comme vous n'allez pas tous me demander de vous préparer au mariage, je me dis, on peut peut-être parler de comment savoir aimer, comment aimer, même si on ne se prépare pas au mariage. Alors, c'est vrai que j'avais aussi une petite réticence en apportant ce message. Je me dis, mais il y a des célibataires au milieu de nous. Comment vont-ils recevoir ça ? Les personnes qui vivent seules, il y a peut-être des veuves, il y a peut-être des personnes isolées. Alors est-ce que, finalement, apprendre à aimer, ce n'est que pour les personnes qui se préparent à vivre en couple ? Mais bien sûr que si. Non, pas du tout. Alors j'avais envie de parler de comment, avec quelques pensées, comment apprendre à aimer et quelles sont les clés, en sachant que, je dirais, tout le monde pense savoir aimer. Hein. Souvent, parfois, on est dans cette position. En tout cas, dans le monde, les personnes se disent « Oh, moi, aimer, je sais ». Et puis, on s'aperçoit que Parfois, ça repose uniquement sur une question de sentiment. Et on oublie que le véritable amour, c'est un... Et là, c'est une image qui parlera à Michel. C'est comme un jardin qu'on entretient. Hein ? On doit l'arroser au quotidien. On doit éliminer les mauvaises herbes. Et on doit en prendre soin pour que les fleurs continuent à pousser. Alors, au jeune marié qui est là, si tu croyais que tout est arrivé, retrousse-toi les manches, ça ne fait que commencer. Mais pour madame aussi. Alors, c'est quoi aimer ? Ça sert à quoi l'amour ? Ouais, vous êtes trop jeune, vous ne savez pas à quoi je fais référence, mais il y a une chanson d'Edith Piaf qui dit « À quoi ça sert l'amour ?» C'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est un questionnement qui est au centre de l'existence et de la vie. À quoi ça sert l'amour ? Pas simplement l'amour d'un homme vis-à-vis d'une femme ou d'une femme vis-à-vis de l'homme, mais l'amour d'un homme et d'une femme vis-à-vis de leur Dieu. À quoi ça sert l'amour ? À quoi ça sert l'amour de Dieu pour moi ? C'est rigolo parce qu'en fait, celui qui a écrit cette chanson, « À quoi ça sert l'amour ?», il s'appelait M. E-M-E. Hein, quand on le prononce, c'est-à-dire M. À quoi ça sert l'amour ? Va voir M. Dans le Deutéronome, il est dit que l'amour, au chapitre 7, verset 8, repose sur cette... affirmation, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à votre père, à vos pères, parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. En fait, l'amour, et je le dis aux jeunes gens qui veulent se préparer au mariage, mais aussi à ceux qui veulent savoir c'est quoi l'amour, ben, l'amour, c'est une question d'alliance. C'est vouloir faire alliance avec quelqu'un d'autre. Et en fait, dans le Deutéronome, Dieu dit « Mon amour pour vous repose sur une volonté de faire alliance avec toi. » Ah ! Alors, est-ce que c'est cela qu'on a compris lorsqu'on s'est engagé, qu'on a fait alliance avec l'autre ? Non, c'est parce que vous savez, il y avait mon petit cœur qui battait à chaque fois que je la voyais. Alors à chaque fois, je me suis dit, vaut mieux l'épouser, on ne sait jamais. Hein? Non. Je dis souvent, dans la préparation au mariage, l'amour, c'est bien s'il y a des sentiments, et c'est même mieux, mais après, c'est une question de volonté. Vouloir aimer. Et là, dans cette parole du Deutéronome, Dieu dit, je veux tenir mes serments, je veux tenir mon alliance avec toi, parce que je t'aime. Est-ce que dans mon désir d'aimer, ma démarche d'amour vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Parce que ce n'est pas simplement un conjoint, c'est mes parents, c'est mes proches, c'est mes collègues de travail. Est-ce qu'il y a la volonté d'aimer ? Sans volonté, l'amour n'est rien. Parce qu'on sait bien que les sentiments devront se transformer avec le temps, se bonifier. Mais s'il n'y a pas la volonté au plus profond de mon être, s'il n'y avait pas la volonté de Dieu pour m'aimer, il n'y aurait pas eu de croix. Moi, je crois profondément, et j'ai travaillé sur un texte doctrinal il y a 2 ans pour notre Église sur la création. Je crois profondément qu'il y a une volonté de Dieu à nous aimer et que lorsque la parole de Dieu, le logos de Dieu a dit que la lumière soit, tout. Heureusement qu'il y avait la volonté de Dieu de nous aimer en sachant ce qui allait se passer derrière avec l'infidélité des hommes, la rupture de son alliance en jardin d'Éden, etc. Il a malgré tout prononcé ces mots, que la lumière soit. Et si l'on se réfère au prologue de l'évangile de Jean, au commencement était la parole et la parole était Dieu et rien n'a été fait sans Dieu. Ça veut dire que ce logos de Dieu qui a créé l'univers tout entier, c'est Christ. Et Christ prononçant ces mots, que la lumière soit, et que commence ainsi la création, afin que l'amour de Dieu soit manifesté, cette parole-là disait que la lumière soit, en sachant qu'au bout il y aurait la croix. C'est pas de la volonté d'aimer, ça? Est-ce que c'est cette volonté-là qui nous anime? Alors, il y a des théories sur l'amour qui sont un petit peu à côté de la plaque. La première, peut-être, c'est penser à tort que l'amour, c'est d'être aimé. Et ça, c'est profondément une erreur. L'amour, ce n'est pas d'être aimé. C'est d'aimer. C'est cette fausse conception de l'amour, en disant, mais l'amour, c'est d'être aimé, que dans notre monde, les hommes et les femmes s'échinent à employer différentes méthodes, stratégies, pour se rendre aimables. C'est-à-dire pour qu'on m'aime. Je vais faire du sport, je vais me maquiller, je vais perdre quelques kilos, ici, là, surtout, là. Voilà. Mais enfin, on va m'aimer. Je vais être gentil, je ne vais pas montrer mes incompétences, mes travers, mes fragilités. Moi, j'ai eu de la chance. Ma fiancée m'a dit oui avant qu'un jour, alors que nous vivions en communauté avec des célibataires, elle aille dans ma chambre pour chercher quelque chose et qu'elle voit l'étendue des dégâts dans ma chambre. Là, elle a vu que il y avait des choses que je ne lui avais pas forcément montrées sur ma manière de vivre. L'ordre et le rangement français ne correspondaient pas à l'ordre et au rangement helvétique. Ouais, c'est pas grand-chose. Elle m'aimait suffisamment pour passer par-dessus. Mais qu'est-ce qu'on masque? Qu'est-ce qu'on cache? Quelles sont les stratégies que nous posons pour nous rendre aimables en croyant que l'amour, c'est d'être aimé? Un des exemples dans l'Écriture qui montre que la stratégie de Dieu n'est pas la nôtre lorsqu'il parle d'amour, c'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Dans ce livre, qu'on considère souvent comme le cinquième évangile, eh bien, il est dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Heureusement que Ésaïe n'a pas été chargé de la communication sur un site internet pour développer l'attractivité de Jésus. C'est pas porteur. Une faible plante, quelque chose de méprisable, qui sort d'une terre desséchée. Or, là où nous privilégions le fait d'être attractif pour l'autre, c'est-à-dire de concevoir que l'amour, c'est d'être aimé et qu'il faut que je fasse tout pour que l'autre m'aime, Christ aime, et ce n'est pas son éclat, mais son amour qui nous attire. Ce qu'il est, il aurait pu venir, comme les rois mages le pensaient, à Jérusalem, dans le palais d'Hérode, avec des beaux vêtements, une couronne, etc. Ce n'est pas cela qui l'a rendu aimable. Il est venu et il nous a aimés. C'est là sa démarche. Nous essayons tous de paraître meilleurs, de refléter une belle image de nous-mêmes, mais nous ne pensons jamais à ce que nous pouvons donner à l'autre. Christ l'a fait. Il est venu pour nous aimer, d'abord dans l'humilité. Et c'est vrai qu'à notre époque, lorsque nous parlons de l'amour, nous nous disons qu'il faut trouver, parce que c'est facile d'aimer, mais il est difficile de trouver la bonne personne à aimer. Alors, il y a un philosophe qui disait le bon objet à aimer, parce que l'autre est devenu, dans une approche mercantile très moderne, l'autre est devenu un objet à aimer. Vous savez, on est dans une société mercantile. Donc, il s'agit, dans notre appétit d'achat, à regarder autrui comme un objet et ça nous entraîne à le choisir, alors que lorsque nous estimons que ce dernier, l'autre, possède les meilleures qualités disponibles sur le marché, je ne suis pas romantique, les meilleures qualités disponibles sur le marché, compte tenu de notre propre valeur. Quand je vois ce que je suis, il faut que je trouve le meilleur pour moi. Ce n'est pas ça la manière dont, dans ce monde, on conçoit ou on pense l'amour. Là encore, nous sommes loin de la manière dont Dieu aime. Dieu ne nous traite pas comme un objet, en fonction de nos qualités, de notre profil, de ce que nous représentons. Il nous considère comme unique et digne de son amour. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu de cette manière-là pour vous, pour toi, pour moi? Il me considère comme unique et digne de son amour. Vous vous rappelez cette parabole de Matthieu 13 qui disait « Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. » Eh bien, c'est ce que le Père a fait. Il t'a trouvé, il m'a trouvé et il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour me racheter. Waouh! Est-ce que j'aime, moi, de cette manière-là? Est-ce que c'est cet amour-là qui m'habite? Ou bien est-ce que je veux être aimé, et tout faire pour que l'autre m'aime? Ce n'est pas cela, le centre. Le centre, c'est l'amour, le modèle d'amour de Dieu pour moi. Ce que le Père a fait, il est allé vendre, il a été donné tout ce qu'il avait pour me racheter. Ah! Alors que l'esprit du monde, dans notre désir de rationalité, s'empare de tous les domaines de notre vie, nous choisissons autrui comme on peut choisir un téléphone parmi d'autres. Le Samsung, c'est mieux que les Sony. Hein. Ce type de personne, c'est beaucoup plus, ça a plus de valeur que tel autre. Hein. Est-ce que c'est comme cela que nous aimons? L'amour de Christ m'étreint, m'habite. Est-ce que c'est ça? Cet amour qui se donne. Une autre erreur, c'est qui était citée comme dans ce recueil, entre autres, que j'utilise pour le mariage, la préparation au mariage, c'est de la confusion qui existe entre tomber amoureux et l'état permanent d'être amoureux. C'est-à-dire de notre incapacité de dépasser l'intensité initiale pour prolonger l'amour. Ah, tomber amoureux, il y en a qui tombent amoureux. Moi, je suis étonné dans... Je suis comme vous. Je ne l'y voici que chez mon dentiste. Bon, ça fait longtemps que je ne suis pas allé chez mon dentiste, d'ailleurs. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas vu voici. Mais je suis comme vous. Hein. Jamais j'achète voici. C'est vrai, en plus. Mais mais dans ces revues-là, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui tombent amoureux pratiquement tous les mois ou tous les semestres. Moi, je pense que ce n'est pas un problème d'amour, c'est un problème d'équilibre, il tombe. C'est ça l'amour? C'est quoi l'amour? Or, on pense que tomber c'est facile, tomber amoureux, mais l'amour, un philosophe disait, c'est un art. C'est un art d'aimer. Et ça prend du temps. C'est Peggy qui a écrit un texte qu'on lit souvent au moment du mariage, où il donne la parole à Dieu. Et puis, il fait dire ces quelques mots à Dieu. « Ça m'étonne toujours, dit Dieu, d'entendre les gens dire « Nous sommes mariés !» Comme si on se mariait un jour. Laissez-moi rire. Comme si on se mariait une fois pour toutes. Et ils croient que c'est arrivé. Et qu'ils peuvent vivre de leur rente d'amour de gens mariés. Comme si on se mariait un jour, comme s'il suffisait de se donner une fois pour tout. Comme si moi-même j'avais fait le monde en un jour, dit Dieu. Comme s'il ne fallait pas à tout prix, pour un bon sens, enfin, se marier tous les jours que je fais. Les hommes ne doutent de rien. Les femmes non plus, hein, soyons clairs. Deux moitiés ont tant à marier. Quand on a été 20 ans seul, jeune homme seul, jeune fille seule, si différent, de souche étrangère, n'est-ce pas, Francine ? L'une à l'autre depuis des générations d'antan, que de choses à donner et à recevoir, que de choses à recevoir et à donner, mes enfants. J'aime bien ce texte de Peggy. Alors ça parle du couple, mais ça parle aussi de notre relation à Dieu. Est-ce que je l'aime tous les jours ? Est-ce que je me marie, je fais alliance avec lui tous les jours ? Ou bien, bah, j'ai pris mon baptême en 72. Oui, au siècle dernier, je vois qu'il y a des regards qui sont un peu dubitatifs. Si, si, il y en a qui ont pris leur baptême au siècle dernier. Ça date, hein ? Mais depuis, est-ce que je fais alliance avec lui tous les jours ? Est-ce que tu fais alliance avec ton Dieu ? Est-ce que ton amour avec lui est une alliance d'amour qui chaque jour fait que tu vas à sa rencontre ? Combien de chrétiens dans leur histoire d'amour avec Dieu pensent qu'une fois le baptême accompli, tout est accompli, alors que ce n'est que le début de la relation, de la vie avec lui ? Alors, j'aime beaucoup ce verset de Deutéronome 30:15, qui dit « J'ai mis devant toi le chemin de la vie. J'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. » J'aime bien ce texte de Deutéronome, c'est tellement encourageant. C'est « J'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort, choisis. » Attends, redis-moi le choix, la vie et la mort. Choisis. Quand j'ai lu la première fois ce verset, je me dis « Mais il est où le choix ?» Ben, il y a des hommes qui choisissent la mort, qui ne choisissent pas la vie et l'amour. C'est un fait. Mais même dans leur vie relationnelle, l'amour, c'est un chemin de vie. Et je ne parle pas que dans les couples, je pense dans les familles, dans les relations avec l'autre. Il y a un chemin de vie, il y a un chemin de mort relationnel. Qu'est-ce que je choisis ? Oh là ! Si je dois regarder l'état de mes relations avec l'autre, est-ce que c'est une relation d'amour et de vie ou une relation de mort et de séparation ? Parce que la question de la mort dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la mort physique, c'est la séparation. Lorsque Christ parle d'être rejeté dans la géhenne, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité parce qu'on n'a pas accepté son amour. Est-ce que dans mon relation aux autres, c'est aussi de cet ordre-là une séparation ? Ou bien est-ce que c'est un chemin de vie ? Mais un chemin ! Alors un chemin, je vais vous expliquer le principe et le concept du chemin. Le chemin, ce n'est pas une station unique où on reste. Vous voyez ? À Groix, il y a de super chemins douaniers. Et puis vous avez des sortes de balcons qui donnent au-dessus de la mer. Mais le balcon, ce n'est pas le chemin. C'est un moment où on s'arrête, on regarde le paysage. Mais le principe du chemin, c'est de continuer à marcher dessus. Est-ce que ça va ? Là, c'est hautement philosophique, ce que je suis en train de vous partager. Hein. Donc, il faut concevoir cette idée-là. Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Est-ce que tu marches sur ce chemin ? Est-ce que tu fais alliance tous les jours ? Alors, il y a quelqu'un qui disait que l'amour, c'est comme une réponse à l'existence de l'être humain. Que le besoin intime de l'être humain, c'est de surmonter sa propre solitude et qu'il a toujours cherché, l'être humain, à dépasser sa vie individuelle dans la solitude par l'amour qui permet de rencontrer l'autre. On est dans la définition à la fois de l'amour et de la démarche entre un homme et une femme, entre des amis, mais aussi dans la relation avec Dieu. Est-ce qu'on est dans cette réponse à l'existence humaine ? Moi, je le crois. Il y en a très peu qui ont envie ou qui ont le désir de vivre seul sur une île déserte. Le plus grand poème qui est connu est d'un pasteur du XIVe siècle. Il dit « Nul n'est une île, nous sommes tous rattachés à un continent dont nous dépendons. Et s'il y a un morceau de terre qui s'en détache de ce continent, eh bien j'en souffre parce que je perds une partie de moi-même. » Nous ne vivons pas seuls. Nous sommes faits pour vivre en relation, d'abord avec Dieu, ensuite avec l'autre. Alors, est-ce que cette réponse à notre existence, nous la prenons par le bon bout ? Quelqu'un disait qu'il y a des formes imparfaites d'amour. Il y a par exemple ceux qui sont dans une forme passive, alors on pourrait presque dire masochiste, de dire eh bien, l'individu cherche à éviter son isolement en étant absorbé par l'autre. La fusion, l'amour fusion, fusionnel. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il ne cherche pas à ce que je me fonde en lui ou que je me fonde dans l'Église, que je disparaisse et que je perde toute l'identité que je suis, toute la richesse que je suis, qu'il a déposée en moi. Mais il y en a qui pensent que pour être en relation et faire alliance avec l'autre, je dois disparaître. Ça, c'est un gage de sécurité pour moi. Enfin, je suis aimé, donc j'abandonne tout ce que je suis. La personne qui est sur ce registre-là fera tout pour plaire à l'autre, sans jamais questionner ses propres limites, parce qu'il a l'impression que son besoin d'amour est comblé. Est-ce que c'est ça l'amour dont nous sommes aimés de Dieu ? Il y a des cantiques, je ne sais plus dans lequel, je crois que c'est dans le premier Jeunesse en mission, où il y a un cantique qui dit « Brise-moi ». Je ne sais pas si vous faites cette prière-là. Moi, j'ai du mal. Brise-moi, fais-moi disparaître. L'image du fondeur aussi, voilà. Le feu passe et je disparais, ou tout ce que je suis disparaît. Non. Dieu m'a créé et t'a créé comme un être unique de valeur. Il y a en toi le miracle de l'amour de Dieu lorsqu'il t'a créé, des richesses qui te sont propres et que nul autre ne possède. Vous savez quoi ? Vous, je ne sais pas, mais moi, je suis un exemplaire unique. Donc, j'ai de la valeur. Trouvez-en un deuxième comme moi. Il y en a d'autres qui disent « Oh non, surtout pas !» Vous êtes un exemplaire unique. Ce qui a besoin d'être travaillé, c'est la purification, la sanctification, que ce qui n'est pas de l'œuvre telle qu'elle est voulue dans ce que je suis par Dieu puisse être épuré. Mais il ne m'appelle pas à disparaître dans un amour où je disparaîtrais totalement. Une autre réponse à ces besoins d'amour, c'est une réponse active où l'individu cherche à échapper à sa solitude, mais cette fois-ci en soumettant l'autre. Ah, combien il y en a qui disent « je veux bien aimer, mais à condition que l'autre se soumette à moi, en tout ». Voilà, ça c'est de l'amour. On en entend beaucoup parler, notamment dans le rapport homme-femme. Est-ce que c'est comme cela que j'aime ? Parfois, on a aussi eu dans l'Église une forme d'amour vis-à-vis de Dieu de cette nature. Soumettre Dieu. Là, je suis en train de travailler avec tout un groupe de pasteurs sur des fausses doctrines qui sont en train de se véhiculer dans l'Église. Et les doctrines en question soumettent Dieu à nos désirs, nos envies et nos orientations. Donc, ce n'est plus nous qui sommes soumis à Dieu, c'est Dieu qui nous est soumis. Voilà comment est Dieu. Est-ce que c'est aussi de cette manière-là que j'aime l'autre ou je conçois l'amour ? Alors, l'amour, c'est un don, d'abord. Et je dis souvent que dans Jean 3,16, le fameux résumé de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On a tous appris ce verset. Et souvent, on centre cette parole, pas forcément sur les bons éléments. Moi, il me semble que dans ce verset, c'est Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas donné n'importe quoi et n'importe qui. Il a donné son Fils unique. Il est allé au bout de ce don. Il a fait le don le plus entier. On parle beaucoup de la position homme-femme à l'heure actuelle dans notre société, et on parle aussi dans l'Église de la place de la femme. Ouais, la place de la femme. Et dans le couple, on peut aussi se poser la question. Alors, il y a le fameux verset « Femmes, soyez soumises à vos maris. J'espère que dans votre couple, les choses sont claires. » Femmes, soyez soumises dans l'Église. Ouais. On oublie de lire ces versets qui disent « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et il s'est donné entièrement. Le jour, moi je dis bien, le jour où les maris aimeront leurs femmes de cette manière-là, en se donnant tout entier, ils pourront avoir quelques petites exigences en matière de soumission. D'autant plus que le verset précédent, qui est coupé dans le texte de nos Bibles, parle de la soumission les uns aux autres. C'est-à-dire que ce n'est pas la femme qui est plus soumise à l'homme, mais c'est l'un à l'autre. Est-ce que je suis soumis à ma femme ? Ben attends, oh, c'est quand même moi le chef. Hein, non ? Est-ce que j'aime de la bonne manière ? Est-ce que c'est, pour moi, l'amour est un don ? Est-ce que je me donne à l'autre ? Il a tant aimé qu'il a donné. Et puis, il y a une notion aussi, c'est la connaissance. Connaître l'autre, avoir ce désir de connaître l'autre. Moi, j'aime beaucoup cette notion-là dans la préparation au mariage. Est-ce que aimer, c'est vouloir connaître l'autre ? Avoir le désir de le connaître. Quelqu'un disait, je connais quelqu'un qui aime les chiens. Oh, là, c'est une dame, elle aime les chiens, c'est incroyable. Bon, elle ne leur donne pas à manger. Mais elle les aime. Elle ne les sort pas non plus. Mais elle les aime. Elle ne leur fait pas non plus de caresses parce que bah, y a des poils. Donc elle... C'est quoi aimer si on ne va pas à la rencontre de l'autre ? Non ? Est-ce que j'ai envie de connaître l'autre ? Quand on dit « j'aime Dieu », oh là, d'accord ? Et tu prends du temps pour parler avec lui ? Tu prends du temps pour le découvrir ? Pour connaître toutes ses qualités, etc. ? Est-ce que tu es dans une relation interpersonnelle avec lui qui permet d'approfondir ce que l'autre est et ce que l'autre peut me dire aussi de ce que je suis ? Sinon, ce n'est pas de l'amour. C'est une connaissance, mais lointaine. Voilà quelques éléments qui parlent de l'amour. Et il y en a un qui me semble aussi important, c'est la responsabilité. Se sentir responsable à la fois de la relation, mais à la fois aussi de l'autre. Être capable de répondre aux besoins de l'autre et être prêt à le faire. Est-ce que c'est ça, l'amour ? Se sentir responsable des besoins de l'autre. Dans la préparation au mariage et dans la célébration, il m'arrive souvent de proposer aux futurs mariés des vœux qui viennent de l'Église anglicane. Et de mémoire comme ça, ces vœux disent « Je m'engage à faire tous mes efforts, toute ma vie durant, afin que tu deviennes celui ou celle que Dieu a dans sa pensée. » Ah, oh, j'aime ça. Ce n'est pas simplement les vœux qu'on a sur à la mairie. Je promets de t'offrir un toit, etc., etc. Non, c'est je m'engage à tout faire pour que tu deviennes celui ou celle qui est dans la pensée de Dieu. Et vous savez quoi ? Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu me voit, et même de cette manière-là. Au début, je me suis dit, je ne sais pas très bien ce qu'il voit en moi. Moi, j'étais convaincu que j'étais nul, que je valais rien. J'étais un petit jeune, un ado des quartiers HLM. Je ne voyais pas en quoi je pouvais avoir de la valeur. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous habite. Pensez que l'amour de Dieu n'est pas de cette nature-là. Son amour, c'est qu'il souhaite que tu deviennes que tu adviennes dans l'être que lui a déjà dans sa pensée. Voilà comment il t'aime. Est-ce que là aussi tu peux aimer l'autre de cette manière-là? Il y a une responsabilité. Une responsabilité, vous imaginez, une maman, quand on regarde Laurence avec Théo, avec Clément maintenant, bah, quand on la regarde, elle est attentive à leurs besoins. Elle entoure chacun de ses enfants avec sa tendresse, son amour, ses besoins affectifs, mais aussi, elle leur donne à manger, elle les nourrit, elle les sécurise. Est-ce que j'ai cette responsabilité-là aussi dans mon amour, mon conception d'amour? Et puis, je dirais, je terminerai juste avec ça, avant de passer à autre chose. J'avais un autre, une partie, j'espère que... Voilà. C'est le respect. Pour compenser à un sentiment qui pourrait se... de responsabilité qui pourrait se transformer en domination ou en possessivité, je crois qu'il est important d'y adjoindre ce qui est du côté de Dieu, un élément important de son amour pour nous, c'est le respect. Dieu ne me contraint pas, ne m'oblige pas, il me respecte dans toutes les dimensions de ma vie. En Christ, ce n'est pas sa toute-puissance qui s'exprime, c'est le respect de son amour qui nous laisse la liberté de le choisir. Est-ce que j'ai ce respect-là aussi dans mon amour ou la manière d'aimer l'autre? Alors, je vous donne quelques petites clés comme ça sur ce que c'est que d'aimer. Peut-être d'arrêter de croire que l'amour, c'est être aimé. Oui. Mais c'est surtout d'aimer. Parce que rencontrer Dieu, c'est rencontrer l'amour parfait qui bannit toute peur et toute crainte. Alors, dans ce programme, alors je ne sais pas si je vais avoir le temps, je vais essayer de le faire. Il y a plusieurs textes qui ne sont pas des textes bibliques. Et puis là, il y a un texte que j'avais envie de... C'est un conte. Un conte. Vous êtes prêts pour un conte? Ce n'est pas n'importe qui a écrit ce conte, c'est un pasteur. Et je lis ce texte-là à chaque fois que je fais une préparation. Alors on se le lit, on se dit on l'a lu, on ne se le lit pas forcément en séance de préparation, mais il y a des textes comme ça. Il y en a un de ce comédien ou cet humoriste, j'ai oublié, qui était avec Bedos et puis... non, j'ai oublié. Qui est d'origine juive. Et il a écrit un texte qui est ici, qui parle d'amour, qui est très très beau. Il dit « Commencez que d'aimer hein. ». Et là, c'est un pasteur qui s'appelle Daniel Bourguet, qui est un pasteur retraité de l'Église protestante unie. Il a fait partie, il a même dirigé ou animé, en tout cas, la communauté de la fraternité spirituelle des veilleurs. C'est une communauté qui a été fondée par Wilfred et Théodore Monod, donc en 1923, et qui... a pour mission de prier, puis d'être à l'écoute de Dieu. Et lui, c'est un pasteur qui est à la retraite, et maintenant il vit comme un ermite dans les Cévennes. Alors, pas un ermite replié sur lui-même, hein. Il se consacre à la prière, à la méditation de la Bible. C'est un homme qui est un exégète très, très accompli, qui maîtrise aussi l'hébreu. Il écrit, et puis il accueille des personnes qui ont besoin d'un accompagnement spirituel. Et dans le cadre de son association... des veilleurs, il écrit une lettre qu'il a acceptée, qu'elle soit diffusée un petit peu, et qui date de 1992. Et donc, il s'adresse à une femme qui est une veilleuse dans cette association de prière. Et il dit ceci, « Il m'est arrivé cet été une drôle d'aventure, et j'ose te la raconter, parce que nous nous connaissons assez maintenant. J'avais à préparer une prédication pour le mariage de deux personnes. » C'était pas simple. Et puis en plus, j'ai lu un verset qui disait ceci dans Colossiens 3, 12, verset 15, 12 à 15. « Et par-dessus tout, revêtez-vous d'amour. » Et par-dessus tout, revêtez-vous d'amour. Le verbe utilisé compare l'amour à un vêtement. Et me voilà déçu. L'amour serait-il aussi superficiel pour être comparé à une parure dont on peut changer chaque jour ? Alors je suis allé m'asseoir, déçu, sous un pommier de chez moi, pour réfléchir à ce curieux verset. Et soudain, j'ai senti une branche sur mon épaule. Le pommier sous lequel j'étais assis a commencé à me parler. Si vous... C'est parce que vous ne faites pas attention, que vous n'écoutez pas les pommiers. Mais les pommiers, ça parle. Et il dit, je vais t'expliquer ce qu'est l'amour, disait le pommier. Je vais t'expliquer ce que c'est que l'amour. Et pourquoi c'est le verbe revêtir qui est utilisé. Il s'agit bien d'une comparaison. Cependant, cette comparaison n'est pas empruntée aux hommes, mais aux pommiers. Nous, les pommiers, nous nous revêtons tout d'abord de feuilles durant le printemps. Et par-dessus tout, nous nous revêtons de pommes. Crois-moi, il faut du temps pour s'en revêtir de pommes. Par-dessus tout, les feuilles, lentement, non pas chaque matin, mais petit à petit, ce n'est pas superficiel, mais c'est le meilleur de nous-mêmes, c'est une part de nous-mêmes, à vrai dire, c'est notre véritable activité, nous ne faisons que cela, nous revêtir de pommes. Je crois que pour vous, les hommes, il en est de même de l'amour. Et c'est ce que dit Paul, revêtez l'amour par-dessus tout le reste. Oh, j'ai été émerveillé par ces paroles du pommier. Vous verriez, si vous écoutiez les pommiers, vous seriez étonné aussi. Il avait tout compris de ce verset et de l'amour. Le pommier ajouta, « As-tu remarqué que les pommes ne ressemblent pas aux pommiers ?» Pourtant, c'est bien le pommier qui fait les pommes. Aucune ressemblance. En hiver, nous sommes plutôt minables à voir, tristes et secs, sans rien qui attire. Notre bois n'est même pas bon à travailler. Jamais on ne pourrait deviner que des pommes mûriront sur de telles branches. Pour ce qui est des feuilles, il en est de même. Elles ne servent à rien, sinon un petit peu d'ombre. En les voyant, on ne se doute pas qu'elles côtoieront des fruits si beaux. Tu vois, ces pommes si belles ne nous ressemblent pas et sont pourtant de nous. Eh bien, je me permets de te dire qu'il en est de même des hommes. Si décevant soit-il, si triste et sec, si inutile et encombrant soit-il, l'homme est tout de même capable de se revêtir d'amour. Quelle belle chose que l'amour, quel triste individu que l'homme et la femme. Ça, c'est moi qui rajoute. Et quelle merveille de considérer que l'homme est capable aimer. Ah, j'approuvais vraiment, assez soufflé d'entendre de telles choses. Après un silence qui me sembla, qui me laissa le pommier pour répondre, et voyant que je ne disais rien, le pommier me demanda s'il pouvait continuer. Bien sûr, vas-y, dis-je, en pensant au sermon du mariage qu'il était en train de faire à ma place. Vous, les hommes, dit le pommier, vous avez inventé des tas de choses extraordinaires, mais vous n'êtes pas encore arrivés à faire des pommes synthétiques. Eh ouais, ça va venir. C'est de 92 ce texte. Seuls les pommiers savent faire des pommes. On trouve du meilleur bois que le nôtre, de meilleures feuilles que les nôtres sur d'autres arbres, mais des pommes. C'est notre raison d'être. Dieu nous a créés pour cela. Si nous ne produisons pas de pommes, qui le fera? Eh bien, mon cher, il en est de même pour vous. L'homme est la seule créature au monde à savoir aimer. C'est sa raison d'être. Vous avez beau chercher, je suis sûr que vous n'arriverez jamais à inventer l'amour synthétique. Et si vous n'aimez pas, qui donc aimera à votre place? Où donc Dieu trouvera-t-il l'amour si vous ne vous en revêtez pas? Réfléchis bien. N'est-ce pas la seule chose que Jésus vous a demandé? La seule. Ah, j'étais ahuri d'entendre tant de choses sous cet arbre, et comme j'avais peur que ce brave pommier en arrive à me faire la leçon, je lui répliquais, histoire de lui en remontrer un peu, « Pommier, tu as tout à fait raison. Cependant, je trouve que si l'amour est comme vos pommes, cela frise l'orgueil, parce que vos pommes, vous les mettez bien en évidence pour qu'elles ne passent pas inaperçues. Excuse-moi, mais question humilité. » Je sentis la branche me couper dans mon élan moralisateur. « C'est vrai, dit le pommier, que nous montrons nos pommes et que c'est un peu ostentatoire. » Pour tout te dire, l'orgueil est le défaut des jeunes pommiers. « Regarde celui-là près de la ferme. Il a 4 pommes et ça lui suffit pour dresser orgueilleusement toutes ses branches vers le ciel, le plus haut possible pour se faire remarquer. Mais regarde ce vieux pommier derrière lui. Il est tellement chargé de pommes que ses branches ploient humblement vers le sol. Il fait cela pour mieux offrir ses fruits aux passants. J'ai compris, dis-je au pommier. Ne m'en dis pas plus, je sais qu'il en est de même pour nous. Moins on aime, et plus on le montre. C'est vrai. Pommier, je te remercie. Avant de partir, je voudrais te poser une question. Comment se fait-il qu'en voulant donner le meilleur de lui-même, l'homme arrive à des échecs? Comment se fait-il que l'amour se gâte comme un mauvais fruit au point que des couples en arrivent à se séparer? C'est une grande question et je ne te répondrai qu'à partir de ce que je vis moi-même. Il m'arrive aussi de porter des pommes gâtées. Cela vient du fait que la pomme est un fruit très vulnérable. Une pomme gâtée est une pomme malade, mais cela ne signifie pas forcément que le pommier soit malade. Le pommier souffre d'avoir à montrer ses pommes gâtées, mais il ne perd pas espoir pour autant. Il sait qu'il pourra toujours donner d'autres bonnes pommes. Moi, ça me donne de l'espoir. Sans doute en est-il de même pour vous. Il arrive qu'un amour soit malade et gâté, mais cela ne signifie pas pour autant que l'homme aux fruits gâtés soit lui-même malade. Il lui est toujours possible d'aimer à nouveau, plus humblement, mais avec d'autant plus d'espérance qu'il aura souffert de sa pomme gâtée. J'en avais assez pour ma prédication et j'allais partir. J'étais plongé dans un abîme de réflexion, mais je n'en oubliais pas pour autant de remercier chaleureusement mon ami le pommier. Jamais je n'avais remercié un pommier comme cela. Pour m'arrêter dans mes élans, le pommier me dit, toujours sur le même ton de vieux sage, « Daniel, il faut encore que je te dise une chose. Tu as pu remarquer qu'un pommier est capable de produire des dizaines de kilos de pommes. Eh bien, dis-toi bien qu'un pommier n'a jamais mangé une seule de ses pommes. Eh bien, dis-toi bien ceci, il ne se nourrit pas de ce qu'il produit. Toutes ses pommes sont pour les hommes. Il donne absolument tout. En outre, pour donner ses fruits, il n'a pas besoin d'appeler, de faire de la réclame, de parler. Il se revêt tout simplement de ses pommes et cela suffit pour attirer. Le pommier attire à lui par le seul fait de s'être revêtu de ses pommes. Tâche d'en faire autant. Que ton amour soit pour les autres et uniquement pour les autres. Ne cherche pas à en retirer quoi que ce soit. Et puis n'en parle pas, c'est pas nécessaire. Si tu aimes, on viendra à toi sans que tu aies à parler. J'ai compris, cher pommier, mais dis-moi encore une chose, puisque tu parles de nourriture, de quoi te nourris-tu si ce n'est pas de pommes? Ah, sur ce point, je ne te dirai pas tout, me répondait le pommier, sache seulement que ma nourriture m'est donnée en secret. Je la puise avec des racines que tu ne vois pas et il faut que mes racines restent cachées. Avec elles, je puise ma nourriture dans les ténèbres de la terre, à tout moment. Sans cette nourriture, je ne donnerai aucune pomme. Sache même que mes fruits viennent de ce que je puise avec mes racines et c'est sans doute pour cette raison qu'ils ne me ressemblent pas. À vrai dire, ils ne sont pas véritablement de moi. Cela te suffit et sache qu'il en est de même pour vous les hommes. Ce qui vous est nécessaire pour aimer et puiser en Dieu dans le secret de votre prière. Je ne t'en dis pas plus. Applique-toi à la prière et tu te couvriras de fruits. J'ai quitté le pommier et en partant, je suis tombé sur mon cousin qui s'occupe du verger. Il venait arroser les pommiers. J'ai cherché une parole banale à lui dire, histoire de ne pas lui révéler que j'avais discuté avec un de ses pommiers. Il m'aurait pris pour un fou. Dis donc, Patrick, ça pousse tout seul ? Comment ça, tout seul, me répondit-il, tu es bien intellectuel. Si tu savais le temps que ça me prend pour qu'un pommier donne des pommes, tout le temps qu'il faut pour tailler, arroser, traiter, tous ces fruits que tu vois, ce sont des heures et des heures de travail, des journées d'attention et d'espérance. Et puisque tu es pasteur, je t'avouerai que j'aime mes pommiers et que c'est pour cela qu'ils ont de beaux fruits. Et il me dit cela avec un éclair de joie dans les yeux. Alors, chère sœur veilleuse, les pommes vont bientôt être mûres. J'ai comme le pressentiment que je les trouverai particulièrement bonnes cette année. Que Dieu te garde jour après jour. Daniel. Amen.